80 ans.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Votre nom, c'est Tan Van Tran. Alors, votre matricule, c'est ZAN 65, 15e compagnie.
Voilà. Je travaille en Indochinois. Maintenant, j'ai 100 ans. J'ai 100 ans depuis le 3 juillet. Je suis là encore, vous voyez. Je suis là.
Vous avez 100 ans et vous avez gardé la mémoire de votre jeunesse à l'époque coloniale?
Oui, oui. Vietnam, Vietnam, oi dat Viet, yo yo ngan nam. Vietnam, Vietnam, muon nam.
Donc c'était un chant d'indépendance pour rappeler le peuple vietnamien à se lever debout contre le colonialisme français.
C'est ça, c'est-à-dire debout, appel à tous les Vietnamiens, debout contre le colonialisme français. Faut le courage, faut debout, tout le monde est debout pour avoir l'indépendance.
Et vous le chantiez dans les camps?
Oui, oui, à les camps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chansons comme ça, même.
Et est-ce que vous vous souvenez d'autres chansons?
Oui. Vietnam, bao nam tròn trên chết lầm than, giới ách quân tan tan đế quốc xoay lang, loài phát xít cướp thóc lúa cướp con sông dân mình, đời nhà tù nào đây giam biết bao nhiêu nhục hình.
La voix de Tran Van Tan au micro de Daphné Gasteldi pour la Marche du Monde. Tan est l'un des tout derniers travailleurs vietnamiens à pouvoir encore nous raconter son histoire. Ils sont pourtant 20 000 paysans à avoir été recrutés de force par l'État colonial pour contribuer à l'effort de guerre en 1939. Affectés dans le sud de la France, dans les usines de munitions ou encore dans les champs en Camargue, ils ont relancé la culture du riz. Et au début des années 2000, cet épisode méconnu a été révélé par une enquête du journaliste et historien Pierre Daume. Il signe aujourd'hui le scénario d'une adaptation en bande dessinée intitulée « Les Linto, immigrés de force » où l'on découvre le rôle capital joué par la ville de Marseille grâce au coup de crayon d'un jeune illustrateur.
Alors, je suis Clément Balou, auteur de bande dessinée. J'habite à Marseille depuis une douzaine d'années. Je suis en train de dessiner la Bonne Mère. La Bonne Mère, c'est Notre-Dame de la Garde, en fait. C'est la basilique qui veille sur Marseille. Ça peut être un peu cliché, ça peut sembler un peu facile, mais en fait, c'est l'emblème de la ville. Je me dis que les Indochinois dont on parle dans le bouquin, ils ont dû aussi l'apercevoir très rapidement en arrivant sur les côtes de Marseille.
Il est d'origine vietnamienne, Clément, et il s'intéresse à l'itinéraire de sa diaspora depuis des années. Sur les quais du vieux port de Marseille, le dessinateur revient sur le titre de sa dernière bande dessinée, Les Linto.
Alors, Les Linto, c'est un terme pas très connu, c'est un terme oublié. Et si on a choisi ce terme oublié, c'est parce que ça raconte aussi l'histoire d'hommes dont le destin a été oublié. Les Linto, ce sont de jeunes hommes dans les années 40. Qui viennent en France pour participer à l'effort de guerre et qui ont été arrachés à leur pays. Leur pays, c'est l'Indochine, bon, principalement donc le Vietnam. Alors là, on va feuilleter un petit peu l'album. Alors cette double page, elle commence avec une case où on a une vision de l'entrée de la prison des Baumettes. La prison des Baumettes, donc, c'est une prison emblématique de Marseille. Et c'est l'endroit où on accueille ces volontaires forcés qui arrivent du Vietnam, qui arrivent d'Indochine. On est en 1940. La prison n'est pas encore officiellement ouverte. Et donc, ils sont gracieusement et gentiment logés dans des cellules. Dans la même double page, on va voir de grands événements symbolisés. à la fois dans le destin de ces Indochinois, à la fois dans la grande histoire. Donc, dans le destin des Indochinois, on voit qu'ils sont baladés de camp en camp, qui sont affectés à des travaux divers, aussi bien sur la page de gauche, la poudrerie, que sur la page de droite, les travaux des champs, et là, en fait, de couper du bois. Et pour la grande histoire, on voit aussi une espèce de photo reprise où Hitler pose fièrement devant la tour Eiffel, ce qui est quand même une certaine image de l'époque.
Ces travailleurs indochinois sont venus à cette époque pour participer à l'effort de guerre contre l'Allemagne. Mais le temps qu'ils fassent la traversée en bateau, la France a été vaincue par l'Allemagne nazie.
Et au cours de vos recherches, Clément Balou, vous êtes tombé sur le travail de Pierre Daume, qui lui a fait toutes ces découvertes sur les travailleurs indochinois. Une enquête qu'il a menée de 2005 à 2009. Et d'ailleurs, tout commence par une photo, comme dans votre album « Les Linto immigrés de force ».
Alors sur la photo en question, on voit vraiment un paysage et des gens tels qu'on pourrait les imaginer dans une rizière au Vietnam. On voit vraiment deux hommes en train de piquer le riz dans des marais. Donc c'est vraiment l'incongruité d'avoir la légende Camargue avec une photo qui semble être prise au temps de la colonie en Indochine. Cette photo, en réalité, elle a été prise en 1940, en Camargue, en France, pendant l'occupation. Il s'avérera, après la longue et minutieuse enquête de Pierre Daume, que les deux personnes qui sont dessus font partie d'un contingent de plusieurs milliers de Vietnamiens, indochinois, comme on disait à l'époque, qui ont été recrutés de force par les autorités françaises pour aider à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale.
Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles annamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. Par la décortication, le volume se réduit de 39% et le poids de moitié. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz. Notre pays essaie de s'adapter aux difficiles conditions actuelles.
Le point de départ qui a fait tilter le journaliste Pierre Daume, c'est le fameux riz de Camargue. Ce n'est qu'un des éléments parmi toute cette histoire des immigrés de force vietnamiens, mais c'est un élément qui est révélateur. On voit donc sur les pages les Indochinois qui sont avec des chapeaux coniques, comme on peut les trouver au Vietnam, sauf qu'ils sont en Camargue. Et pour les remercier, il y a la femme du maréchal Pétain qui vient les voir. Donc on est vraiment sous le gouvernement de Vichy. Et en fait, l'initiative de faire travailler les Indochinois en Camargue pour créer des rizières vient en fait du gouvernement de Vichy qui contrôle la France à ce moment-là.
Et on aperçoit aussi une image de la femme du maréchal Pétain, une gerbe de riz à la main dans les rizières de Camargue. Elle s'adresse aux travailleurs indochinois et elle leur dit « Ainsi se cimentent en ces jours de malheur, tant sur le plan du travail que sur le plan sentimental, la confiance et l'estime réciproque de tous les Français de l'Empire. »
Alors, comme en fait tous les autres personnages historiques, ça vient d'archives du style archives de l'INA. Donc ce sont des vidéos d'informations, parce que tout ça a été couvert par les informations, vous savez, avec cette voix un peu nasillarde et criarde. Et en cherchant dans ces archives vidéo, on a trouvé voilà, un portrait de la femme du maréchal, de Madame Pétain, exactement comme ça. Et le texte qu'elle dit, en fait, elle le dit réellement, hein, on l'entend sur l'archive, elle tient ces paroles-là.
Clément Balou, vous êtes co-auteur avec Pierre Daume de cette bande dessinée « Les Linto, immigrés de force ». Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette histoire? Vous avez des origines vietnamiennes aussi.
Alors ça fait un petit moment que cette histoire des exilés vietnamiens, elle me travaille. Et le fait d'être métis, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai ignoré pendant une bonne partie de ma vie. Et c'est en faisant un peu le point autour de moi, en regardant le regard des gens sur moi, sur ma famille, que je me suis rendu compte que c'était une richesse. Alors ça peut sembler un peu une évidence aujourd'hui de dire ça, mais en fait il faut se battre pour que ça soit une richesse. À travers mes bouquins, il y a un combat que je mène qui est celui de faire reconnaître la richesse de cette double origine, double culture. Les premières pages, ça part d'une discussion que j'ai avec mon père, donc dans la cuisine, car lui-même a connu cet exil dans une période des années 60-70. Cette histoire, jusqu'à présent, elle était peu audible, même s'il y a eu des livres et des documentaires qui ont été faits, elle est encore relativement méconnue du grand public. Avec la bande dessinée, je me suis dit que c'était aussi un moyen de faire sortir cette histoire, qu'il était temps d'ailleurs de faire sortir cette histoire. Et la bande dessinée, pour l'instant, personne n'avait encore utilisé ce médium pour aborder ce sujet. Donc, quelque part, je pense que c'est utile qu'il y ait cette bande dessinée aujourd'hui.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI avec Daphné Gastaldi. Nous sommes en reportage à Marseille, sur les bords de la mer Méditerranée. Et nous sommes sur les traces des derniers travailleurs indochinois. En vietnamien, les Linto, les immigrés de force, selon le titre éponyme du roman graphique co-réalisé par le dessinateur Clément Balou et le journaliste historien Pierre Daume. C'est lui qui a révélé cet épisode lors de son enquête historique en l'an 2000.
En septembre 1939, la France donc venait d'entrer dans le conflit mondial et elle avait besoin non seulement de soldats, et là elle a recruté de très nombreux tirailleurs coloniaux, mais elle avait aussi besoin d'ouvriers, de main-d'œuvre pour travailler à l'arrière du front dans les usines d'armement. Et c'est pour cet objectif-là que les 20 000 paysans vietnamiens ont été recrutés. Donc pour travailler dans des usines d'armement comme ouvriers, la plupart du temps dans des poudreries d'ailleurs, et on les a appelés depuis les 20 000 travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes sont à 95% des paysans qui ne sont jamais allés à l'école et qui ont été arrachés de leur village et de leur famille. Pendant ces années en France, certains d'entre eux, notamment les traducteurs, ceux qui avaient été un petit peu à l'école, certains d'entre eux commencent à se politiser. Et d'ailleurs, très vite, il va y avoir un conflit à l'intérieur même des camps entre les tenants donc de la 4e internationale, les trotskistes, et les tenants de la 3e internationale, ce qu'on peut appeler les staliniens, 3e internationale à laquelle se rattachait Ho Chi Minh. À l'intérieur des camps, donc, il y a une première politisation vers 1943, mais c'est surtout à partir de septembre 1945, lorsque Ho Chi Minh, au Vietnam, à Hanoï, déclare l'indépendance du Vietnam, que là, on va dire que la conviction, l'élan vers un Vietnam indépendant et vers la personnalité de Ho Chi Minh va se répandre chez tout le monde, à travers les camps, alors pas seulement le camp de Marseille, mais à cette époque, il y avait donc encore environ 15 000 travailleurs indochinois à travers toute la France, principalement dans le sud de la France.
Pierre Daume, quelle place particulière tient cette ville de Marseille dans cette histoire coloniale ?
Marseille est un lieu fondamental dans l'histoire de ces 20 000 travailleurs indochinois. Marseille était la porte de l'Extrême-Orient, la porte de l'Afrique. C'est au port de Marseille que venaient tous les bateaux à la fois d'hommes et de marchandises venus des colonies. Et un des premiers camps d'internement de ces 20 000 travailleurs indochinois s'est installé à côté de la prison des Baumettes, d'ailleurs dans le quartier de Mazargues. Ce camp de Mazargues a abrité pendant plusieurs années, puisqu'il a été évacué des Indochinois en 48-49, il a abrité jusqu'à 5000 travailleurs indochinois.
Alors nous sommes sur les marches de la gare Saint-Charles, c'est un des lieux de mémoire de l'histoire des travailleurs indochinois.
On est sur ce lieu historique marseillais et on voit de part et d'autre deux sculptures, l'une représentant la colonie d'Asie, l'autre représentant la colonie d'Afrique.
Et c'est d'autant plus symbolique de voir cette sculpture avec la légende colonie d'Asie quand on sait que le leader indépendantiste du Vietnam, Ho Chi Minh, est venu sur ces marches même en 1946.
En effet, à l'été 1946, Ho Chi Minh est venu donc en France pour participer à ce qu'on appelle la conférence de Fontainebleau. Pour donner un petit Rappel historique, un an auparavant, en septembre 1945, il avait déclaré l'indépendance du Vietnam, ce qui n'avait pas du tout plu au gouvernement français, qui était à l'époque dirigé par le général de Gaulle. Et donc, les deux camps, on va dire, décident de se retrouver en France, à Fontainebleau, pour essayer de trouver une solution. Et donc, c'est ce qu'on appelle la conférence de Fontainebleau.
Le palais de Fontainebleau accueille les délégués du Vietnam, qui, avec les membres des délégations françaises, vont fixer le statut définitif de la jeune République au sein de la Fédération indo-chinoise et de l'Union française. C'est M. Max André qui, le premier, prend la parole.
C'est pour moi un honneur et je dois dire une joie que de présider à l'ouverture de travaux destinés à sceller l'union de nos deux peuples dans un climat de liberté et d'amitié. La grandeur et les difficultés de ces œuvres diverses ne nous effraient pas. Nous sommes décidés à les mener à bien pour le plus grand profit et la plus grande gloire de nos deux peuples. Je vous invite donc à entreprendre sans tarder notre travail et je déclare ouverte la conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau.
Aujourd'hui, une France nouvelle, une France qui condamne l'impérialisme et le colonialisme, nous tend la main. C'est pourquoi nous voulons collaborer sincèrement avec elle pour réaliser l'idéal commun. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers même, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons. J'ai le ferme espoir qu'avec le peuple français de la France nouvelle et les Français de bonne volonté au Vietnam, nous pourrons vaincre les difficultés et arriver au but commun, c'est-à-dire la collaboration fraternelle entre nos deux peuples.
Cette conférence échoue et le 17 septembre 1946, donc, Ho Chi Minh se dirige vers le sud de la France, vers Toulon, pour prendre un bateau prévu le 18 septembre pour partir donc au Vietnam. Il arrive à Marseille, il arrive donc en train avec toute sa délégation à la gare Saint-Charles. Et là, au bas de ces escaliers où nous nous trouvons, il faut imaginer une foule immense de 2000, 3000 Vietnamiens donc, qui vivent à cette époque-là dans le camp de Mazargues, à l'autre bout de la ville, et qui sont venus vivre un moment certainement absolument extraordinaire de leur vie. Et donc sur cette très très belle photo qui a en plus le charme de ces vieilles photos au bord cannelé, on aperçoit donc plusieurs banderoles écrites en français. On peut très bien lire « Vive la République du Vietnam, bienvenue ». Alors on imagine que c'est à Ho Chi Minh. Et ensuite donc Ho Chi Minh va se retrouver dans le camp de Mazargues, ce camp d'internement marseillais dans lequel la plupart de ces hommes auront passé presque 10 ans. Et là Ho Chi Minh va faire un grand discours devant tous ces hommes.
Écoutez un chant national vietnamien, Ho Chi Minh Mon Am, ce qui littéralement se traduit par « Mille ans, Monsieur Ho Chi Minh », la formule consacrée à la mythe pour offrir ses vœux à quelqu'un, et que l'on peut traduire en bon français par « Vive Monsieur Ho Chi Minh ».
La suite de l'enquête révélée par Pierre Daume sur les derniers travailleurs indochinois, c'est à écouter dans La Marche du Monde sur RFI, au micro de Daphné Gastaldi.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de la marche du monde sur RFI. Nous sommes à Marseille, sur les traces des derniers travailleurs indochinois arrivés en 1939 en provenance de Saïgon. Des sujets de l'Empire français transportés de force et débarqués dans le port de Marseille après plusieurs semaines de navigation. Ces paysans recrutés pour participer à l'effort de guerre contre l'Allemagne se sont finalement retrouvés au service de l'État français du maréchal Pétain, car entre-temps, l'armistice avait été signé avec les nazis. Le dernier travailleur indochinois, c'est un reportage signé Daphné Gastaldi pour RFI.
Nous sommes donc sur le quai industriel maritime de Marseille. C'est à cet endroit-là aujourd'hui que partent les ferries pour la Corse, pour l'Algérie, que partent un grand nombre de containers à travers les mers. Et c'est sur ce quai qu'ont débarqué il y a plus de 70 ans les 20 000 travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale.
La voix de Pierre Daume dans La Marche du Monde. Il nous guide sur les lieux mêmes où il a mené son enquête pour révéler le destin oublié de ces Vietnamiens bloqués en métropole pendant toute la durée de l'occupation allemande.
Donc ils sont venus en 14 bateaux différents, étalés sur 4 ou 5 mois, à raison de 1000, 1500, 2000 personnes. Et ils ont tous vécu une traversée très éprouvante. Hein. C'était 6 semaines de traversée en fond de cale avec interdiction de monter, ne serait-ce que prendre l'air sur le pont. Ils étaient entassés véritablement dans les cales, des cales réservées normalement au transport de marchandises. Ils ont vécu un arrachement psychologique très fort avec leur famille. Ils avaient un mal de mer épouvantable. Et là, au bout de 6 semaines, là où nous sommes, sur le quai d'Arinque à Marseille, enfin, ils peuvent sortir de ces cales et prendre l'air. Alors, ils ne vont pas prendre l'air très longtemps puisque sur le quai, des camions bâchés les attendent et à peine descendus des bateaux, ils montent dans ces camions et sont transportés à l'autre bout de Marseille, vraiment en traversant toute la ville, dans ce qui était à l'époque encore une espèce de campagne. C'est le quartier de Mazargues avec cette nouvelle prison, la prison des Baumettes, qui venait d'être construite et dans laquelle ils vont passer leur première nuit sur le sol de la mère patrie, le sol de la métropole.
Il y avait 2 compagnies maritimes qui étaient chargées de cette ligne entre l'Extrême-Orient et Marseille. Quelles étaient ces compagnies ?
Donc, il y avait la compagnie des chargeurs réunis et l'autre compagnie qui s'appelait les messageries maritimes. Les messageries maritimes étaient la compagnie la plus importante. Ces compagnies étaient habituées à faire du transport à la fois de passagers et on a dans notre imaginaire ces images de personnel de l'administration coloniale très bien habillé, qui voyage en première classe, comme on peut le voir dans le film Indochine, par exemple, avec Catherine Deneuve. Là, en ce qui concerne les travailleurs indochinois, ce n'est pas du tout ces images-là qu'il faut avoir à l'esprit. Ils ont été véritablement mis dans les cales destinées aux marchandises. Ces cales dans les ports de Saïgon, de Touran ou de Haiphong avait été sommairement aménagé en immenses dortoirs avec des lits superposés en bois de 3 niveaux. Mais comme le plafond lui-même de la cale n'était pas très haut, chacun de ces hommes ne pouvait même pas tenir assis sur sa couchette. Et donc c'était soit allongé, soit vaguement debout dans les petits couloirs. Et ils n'avaient pas le droit non plus de monter à l'étage sur le pont pour prendre l'air.
Un corps expéditionnaire destiné à relever les troupes françaises stationnées en Extrême-Orient va s'embarquer à Marseille sur le maréchal Joffre. Composé de régiments coloniaux, on y distingue côte à côte le légionnaire et le tirailleur sénégalais.
Ce quai d'Arinque existe toujours, on voit d'ailleurs des ferries. C'était le point d'arrivée des travailleurs vietnamiens, mais aussi le point de départ lorsqu'ils ont été rapatriés pour certains.
Absolument. Ce rapatriement aurait dû avoir lieu dès 1945, lorsque la route maritime vers l'Extrême-Orient est à nouveau praticable. Sauf qu'en 1945, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam, De Gaulle refuse et envoie la troupe française, mater les désirs d'indépendance du peuple vietnamien. Et donc le gouvernement français va réquisitionner tous les bateaux en partance pour l'Extrême-Orient pour envoyer la troupe française. Et donc les 15 000 travailleurs indochinois encore présents sur le sol français vont continuer à être bloqués en France jusqu'à 1948. Et c'est à partir de cette date-là que le gouvernement français organise enfin le rapatriement de ces hommes. Ce rapatriement va s'étaler sur plusieurs années, hein, sur 4 ans, entre 48 et 52. Et en fait, un certain nombre d'entre eux va hésiter, notamment parce qu'ils ont rencontré une Française, ils ont noué une relation amoureuse, certains ont même eu des enfants. Et donc, le gouvernement français va donner la date limite du 31 décembre 52 pour dire, écoutez, ceux qui veulent être rapatriés doivent s'inscrire avant le 31 décembre 52, sinon après, eh ben, nous n'organiserons plus le rapatriement, et si vous voulez retourner dans votre pays, ça sera à vos frais. Et donc cette date butoir a été importante puisque un certain nombre de ces hommes qui hésitaient ont dû prendre une décision. Et donc entre 2000 et 3000 ont décidé de rester en France.
Pour nourrir son enquête, Pierre Daume a cherché dans les archives de l'administration française et notamment dans les cartons du MOI, le service de la main-d'œuvre indigène, un service installé à l'époque dans la ville de Vichy, capitale de l'État français. Pendant la collaboration, la MOI gérait justement les dossiers des travailleurs indochinois.
148W188. Vous avez terminé celui-là, vous me le ramenez, je vous donne l'autre.
Merci. Donc ça, c'est le 76W209.
Alors, où est-ce qu'on se trouve, Pierre Daume ?
On se trouve aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. C'est dans ce lieu que se trouve une bonne partie des archives qui concernent l'histoire des travailleurs indochinois, puisque donc Marseille a été le lieu peut-être le plus important de cette histoire. Et donc, la préfecture de Marseille s'est retrouvée à avoir une correspondance importante avec le service de la MOI, la main-d'œuvre indigène, qui lui était basé à Vichy. Et donc, il y a des traces de cette correspondance très présente ici, dans ces archives des Bouches-du-Rhône. Alors là, moi, c'est toujours très émouvant quand je sors ces cartons, parce que l'emballage du carton est neuf et moche, mais à l'intérieur, on se met à toucher des papiers qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et bien, en haut de la première chemise est écrit « vietnamien ».
Il y a l'odeur du papier ancien aussi.
Absolument. L'odeur et la fragilité, et c'est toujours un peu religieusement, en quelque sorte, que je touche ces vieux papiers. Parce que la plupart d'entre eux donc, sont des copies de correspondances entre le service central de la MOI, la main-d'œuvre indigène, qui se trouvait en principe à Vichy. Ensuite, elle est partie à Paris vers la fin de la guerre. Et on va dire le préfet des Bouches-du-Rhône, hein, puisque nous sommes dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône.
Et pendant votre enquête, vous n'avez pas toujours eu accès à toutes ces archives. Quelles étaient les difficultés pour trouver des informations sur ces travailleurs vietnamiens ?
Alors, ça a été en effet très difficile. L'idée était à la fois de retrouver aussi rapidement que possible les derniers témoins encore en vie de cette histoire. Et donc, il fallait être rapide parce qu'il s'agissait de très très vieux monsieur. Et parallèlement, j'étais à la recherche d'archives papier afin de, on va dire, de confronter les témoignages de ces vieux monsieur avec d'autres sources d'informations qui ne sont pas forcément beaucoup plus fiables dans leur genre que la mémoire, peut-être parfois défaillante, de ces vieux monsieur. Les archives que nous avons actuellement sous les yeux, ce sont des productions de l'administration française. Donc ce sont des productions de, j'allais dire, l'appareil colonial.
Mes devoirs m'appelle auprès de mon peuple.
Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du Vietnam.
Avant de quitter le champ français, je tiens à proclamer, une fois de plus, mon affection pour le peuple français, mon attachement à l'idéal démocratique dont il est le champion. Les travaux de Fontainebleau n'ont pas encore abouti, il est vrai, à des résultats concrets. Mais je connais le peuple de France. Je sais que l'idéal de 1789 est toujours vivace en lui.
Donc là, nous sommes en novembre 1946. Le grand événement qui avait marqué les travailleurs indochinois, c'était deux mois avant, le 16 septembre 1946, le passage de Ho Chi Minh à Marseille. Je lis. Après le départ du président Ho Chi Minh, le 16 septembre 1946, on ne relève aucune activité notable sur la place politique dans les milieux indochinois. Toutefois, les critiques contre le président se font de plus en plus nombreuses. On lui reproche d'avoir signé les accords de Fontainebleau qui, dit-on, désavoue la propagande et la lutte menée pour l'indépendance totale. Et on répète que ceux qui sont morts pour l'indépendance se sont sacrifiés en vain. Toute l'attention des Indochinois est concentrée sur leur pays d'origine et les nouvelles sont diffusées et commentées avec passion. Considérant que le centre de l'activité politique n'est plus à Paris mais à Saïgon, tous les Indochinois sont d'accord, mais pour des motifs divers, pour réclamer leur rapatriement.
Saïgon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor. Saïgon, c'est l'escale d'amour, où l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours. Car les garçons savent si bien murmurer, je t'aime. Et les mousmés ont dans leurs yeux bridés des poèmes. Saïgon, dans tes vertes maisons, n'es-tu le...
Pierre Dôme, pour ces recherches sur les travailleurs indochinois, vous avez écumé les centres d'archives de la région de Marseille, d'Aix-en-Provence, et vous êtes tombé notamment sur un carnet de ces ouvriers indochinois.
En 2005, ces archives étaient introuvables, elles étaient considérées comme disparues. Le fait est que, plusieurs années après la publication de mon livre, un des vieils archivistes des archives nationales de la France d'outre-mer, à Aix-en-Provence, m'a téléphoné pour m'annoncer cette nouvelle absolument extraordinaire, qu'il avait retrouvé les archives de la MOI, le service donc de la main-d'œuvre indigène. Et donc, dans toutes ces archives, je suis tombé notamment sur quelques anciens livrets. Donc là, on est vraiment dans la France coloniale, puisque, en plus du nom de chaque individu, est mentionnée sa race, tonkinois, annamite ou cochin chinois. Et là, même dans le document que nous avons sous les yeux, il s'agit d'un annamite de Cochinchine. Quand on tourne les pages, naturellement, sur chacun de ces livrets se trouve la photo de ces hommes, une photo de type un peu prisonnier, à savoir une photo de profil et une photo de face, et surtout accroché sur la poitrine, le matricule.
Dans le même registre que la photo, il y a aussi les empreintes qui sont déposées.
Il y a aussi les empreintes digitales du pouce gauche et du pouce droit. Ces hommes étaient placés dans un régime de semi-liberté où ils avaient l'obligation de rentrer tous les soirs dans le camp et au moindre manquement, à savoir la moindre absence ou le moindre début de contestation du système d'oppression dans lequel ils vivaient, ils étaient sanctionnés. Donc chaque camp d'internement possédait sa propre prison. Et donc tout ça est noté sur ce livret individuel.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Après ces 4 ans d'enquête, en fouillant les archives, en retrouvant des derniers témoins de cette histoire, qu'est-ce que votre livre, Immigrés de force, a changé dans ces familles ?
La plupart de ces vieux témoins n'ont jamais réellement raconté leur histoire à leurs propres enfants. Quand j'ai commencé mon enquête, la plupart d'entre eux étaient décédés, et donc leurs enfants se retrouvaient en quelque sorte sans histoire, avec un vide historique, un vide mémoriel dans leur propre famille. Et donc beaucoup d'entre eux ont découvert finalement l'histoire de leur père post-mortem grâce à mon livre.
Alors nous sommes en voiture, on a quitté la zone des quais et on se rend à présent à l'Estac. Il y a encore un témoin vietnamien de cette histoire incroyable.
Donc nous allons chez un très très vieux monsieur, un des tout derniers anciens travailleurs indochinois encore en vie. Il s'appelle Tran Van Tan. Et donc dans l'ordre des patronymes vietnamiens, le prénom est à la fin. Donc son prénom c'est Tan. Tan est arrivé avec un des 14 navires qui ont transporté les 20 000 travailleurs indochinois. Le sien s'appelait le Yalu. Il a embarqué d'Indochine, donc du Vietnam, en décembre 1939. Et il est arrivé le 22 janvier 1940 sur le port d'Arinque où nous sommes passés.
Ça y est, on est arrivé à l'Estac. Il y a beaucoup de vent, comme souvent à Marseille. Et on est dans la rue de Tan.
C'est une petite rue charmante, tout à côté de la mer.
Il y a une petite maison blanche avec de la vigne et des orangers. La sonnette.
Tran Van. Bonjour Tan.
Tan.
Comment vous allez ?
Ça va, ça va. Je ne demande pas plus que ça. Asseyez-vous.
Oui.
Voyez tout ça.
Dites-moi, vous avez quel âge ?
J'ai 100 ans.
Vous avez 100 ans ?
Oui, je porte assez bien.
Alors Tan, est-ce que vous vous souvenez de 1946 lorsque Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du Vietnam, est venu en France, à Marseille ?
1946, Ho Chi Minh parti. Je m'appelle, tout le monde a pleuré.
Tout le monde pleurait ?
Oui, Ho Chi Minh parti en bateau au Vietnam avec une délégation à Toulon.
Avec la délégation.
Avant de partir, on fait une chanson pour dire au revoir à Ho Chi Minh.
Vous avez fait une chanson d'adieu et vous pouvez nous la chanter ?
Nhìn con thuyền xa bên, lòng tôi càng lưu luyến, hát khúc chia ly, cho trái tim nao nùng đôi chút, như tiếng thơ nó càng gieo dắt, bóng chèo nhạt khoan, sen lẫn tiếng đàn. Tôi khóc biệt ly, khóc cho ngày đi, không còn ngày về, chia mối tình truy. Và là truy là encore.
Quand est-ce que vous êtes parti pour la France?
39.
En 39, vous êtes parti?
Novembre 39, je suis quitté au Vietnam pour la France.
Vous êtes né en 1917, donc vous aviez 23 ans lorsque vous êtes arrivé
oui,
en France.
Oui.
Et vous arrivez, vous deviez travailler pour la France dans les champs en tant qu'agriculteur et finalement la France perd, donc vous vous retrouvez à travailler pour les Allemands.
Moi j'étais à Toulon, je travaillais pour les Allemands à Toulon. Beaucoup de travail, sinon coup de pied.
Les Allemands vous frappaient ?
Pas toutes. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut travailler, il faut le supporter, il faut travailler, il faut... C'était dur. En plus... On ne parle pas français.
Alors Tan, vous nous avez aussi trouvé des documents très intéressants puisqu'ils datent de votre arrivée en France et de votre démobilisation.
Oui.
C'est vous, ça?
Oui, c'est moi, ça.
La fille de Tan a sorti une boîte de chaussures dans laquelle se trouve un véritable trésor, c'est-à-dire des dizaines d'anciennes photos, enfin de vieilles photos noires et blanc, souvent de format très petit. Comme beaucoup d'anciens travailleurs indochinois ont conservé. Et donc ce sont des photos de l'époque, du début des années 40. On voit Tan avec certains de ses camarades. Alors certaines photos, je reconnais en arrière-plan les baraquements du camp de Mazargues. Là, on reconnaît l'étoile vietnamienne. Hein, quand vous revendiquiez l'indépendance du Vietnam, ça, c'était, c'est des photos prises lors de la première du film Kong Bin, qui est le premier film qui a été tiré de l'histoire des travailleurs indochinois. Tan était présent à l'inauguration du Mémorial national pour les travailleurs indochinois, qui a été inauguré le 5 octobre 2014. Ils étaient à ce moment-là plus que 3 ou 4 encore en vie à pouvoir faire le déplacement. Et donc chacun a reçu une plaque pour marquer l'événement. Et ensuite, là, il y a une autre médaille avec les compliments de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il y a beaucoup de médailles sur la table. Tan, qu'est-ce que c'est cette médaille?
Voilà, ça c'est le... Quand tu fais la collecte, quand la guerre d'Indochine, je fais collecte.
Vous avez fait des collectes contre la guerre d'Indochine?
Avec les collègues, avec moi.
Pierre, vous en avez déjà vu des médailles comme celle-ci?
Non, jamais, parce que donc ça, c'est une médaille du gouvernement vietnamien, remis donc à ces anciens travailleurs indochinois qui ont milité activement sur le sol français pour l'indépendance du Vietnam. En collectant de l'argent, en organisant des manifestations, en mobilisant l'opinion publique française sur l'injustice de cette guerre.
Il y a un document qui date du 5 juin 48 du ministère de la France d'Outre-mer, la direction des travailleurs indochinois. C'est une décision vous concernant, Tan. Alors, le directeur des travailleurs indochinois décide la levée temporaire de réquisition des travailleurs.
Travailleurs indochinois, voilà, voilà, c'est ça.
En votre faveur, Tran Van Tan, il y a votre nom.
Voilà.
Et il y a votre matricule, le ZAN 65.
Oui, c'est ça.
Il y a un tampon du ministère des colonies.
Oui, oui, c'est bien ça.
Et alors, il y a un autre document derrière qui date du 3 mai 1957. Le ministère des Affaires étrangères embarqué à Touran, Sud-Vietnam, sur le Yalu, le 16 décembre 1939, arrivé à Marseille le 22 janvier 1940.
Voilà.
Il a servi dans différentes compagnies de travailleurs indochinois jusqu'au 5 juin 1948, date de mise en levée temporaire de réquisition par décision du directeur des travailleurs indochinois, ministère de la France d'Outre-mer. Il a été relevé définitivement le 31 décembre 1952 de ses obligations envers lesdites formations. Là, on voit les médailles de la France, bon, les médailles du Vietnam, bien sûr, et puis la remise des médailles à Tan, qui est très tardive, hein, en 2014-2015. Pierre Daume, est-ce qu'il y a eu des réparations, des indemnisations pour ces travailleurs vietnamiens recrutés de force pour la France?
Non, aucune. Aucune indemnisation. Ça, c'est encore un des scandales de toute cette histoire, puisque ces hommes ont été recrutés la plupart de force et ils ont été forcés à travailler pendant presque 10 ans sans percevoir le moindre salaire. À la fin des années 70, un groupe d'anciens travailleurs indochinois restés en France ont entrepris des démarches auprès du gouvernement français, des démarches très modestes. Ils n'ont jamais réclamé une indemnisation de la part de l'État français pour les souffrances que la France leur avait fait subir. Ils se sont contentés de réclamer que les années passées au service de la MOI, la main-d'œuvre indigène, que ces années soient comptabilisées dans le calcul de leur retraite. Et finalement, le gouvernement français a accepté que la comptabilisation des années se fasse pour les 2 à 3 000 qui étaient restés en France, mais par contre, les 17 000 partis au Vietnam n'ont même pas eu droit à un petit, une petite retraite.
L'histoire de Tan Van Tran, l'un des tout derniers travailleurs indochinois. C'était un reportage de Daphné Gasteldi pour La Marche du Monde, produit par Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel, avec les archives de l'INA. C'est aussi une bande dessinée de Pierre Dôme et Clément Balou, intitulée Les Lintos, immigrés de force, aux éditions La Boîte à Bulles. Et nous avons d'ailleurs le plaisir de vous offrir 3 exemplaires de cette bande dessinée. Et pour la recevoir, je vous invite à répondre à la question suivante. Quel est le nom du quai sur lequel les travailleurs indochinois ont débarqué à Marseille? Je répète. Alors, quel est le nom du quai sur lequel les travailleurs indochinois ont débarqué à Marseille? Vous nous écrivez votre réponse à marche.monde@rfi.fr. Vous nous indiquez bien votre nom, votre prénom, votre adresse et bien sûr le pays dans lequel vous nous écoutez. Plus d'infos sur notre page rfi.fr où vous pouvez réécouter cette émission, mais où vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook. Exprimez-vous, cette émission, c'est la vôtre.